Aujourd'hui, Totemic commence au pied d'un immeuble d'Aubervilliers. Je n'ai ni code, ni nom où sonner parce que Fatima Das est un pseudo qu'elle s'est choisi il y a 5 ans quand elle a publié son premier roman, Une échappée avec Fatima Das. C'est Totemic jusqu'à 10h.
Allô ?
Oui, bonjour Fatima, c'est Rebecca Monzoni.
Bonjour Rebecca.
Je suis dans le hall en bas de l'ascenseur. Et...
Ok, parfait, bah, j'arrive tout de suite à vous ouvrir.
À toutes.
À tout de suite.
J'enlève les chaussures.
Je peux les garder en dessous. Un café ?
Ouais, je veux bien.
Le salon, c'est au Verbier. Bienvenue.
Aubervilliers, station de métro Aimé Césaire, plusieurs rues avec des noms de présidents de la 4e République avant d'arriver au pied de son immeuble. Fatima Das a presque 30 ans, elle a publié son premier roman en 2020, il s'intitule La Petite Dernière et l'un des chapitres commence comme ça. Je m'appelle Fatima, je suis cette banlieusarde qui observe les comportements parisiens. Mon père s'appelle Ahmad, digne d'éloge. Ma mère, Kamar, la lune. Dans une interview, j'ai lu que le pseudo qu'elle s'est choisi, Das, avec deux A, ça veut dire renversé en arabe. Afsia Herzi a adapté La Petite Dernière pour le cinéma et le film sortira le 22 octobre. Depuis quelques semaines, Fatima Das a publié Jouer le jeu, son deuxième roman. Ça se passe dans un lycée de banlieue. Il y est question de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. On y croise Marguerite Duras, Toni Morrison et pas mal de rappeurs, Damso, Fianso. Totemic est dans le salon de Fatima Das. Il y a un vélo devant la bibliothèque et des pâtisseries sur la table.
Totemic, Rebecca Manzoni, sur France Inter.
Pardon, c'est portable.
Je ne mets jamais en sonnerie, mais là, comme je savais que vous arriviez.
Ça va le micro, là ?
Ouais, c'est parfait.
Et à la bonne distance ? Ça représente quoi pour vous un micro ?
Réussir à trouver les bons mots.
Et vous parlez facilement ?
Non, pas facilement. La parole, c'est pas quelque chose avec quoi je suis à l'aise. C'est l'écriture qui m'a permis vraiment de me dire « Ok, j'ai peut-être des choses à dire, je ressens des choses. » Moi, j'ai l'impression que quand j'écris, c'est là où je suis le plus juste, le plus vrai, quoi. Où je me mens pas. J'ai pas d'autre choix que de pas me mentir quand j'écris. C'est... Alors que la parole, c'est autre chose. Je sais pas, le mensonge, il vient rapidement, quoi. Un truc...
On fera le point à la fin de l'interview. Hein.
Alors qu'en vrai, on n'a pas le temps de mentir à l'oral. Quand on écrit, on peut prendre le temps. C'est ça qui est étrange. Et en même temps, moi, j'ai l'impression que vraiment, quand j'écris, c'est là où je me mens pas et où je peux pas mentir, quoi. Si j'avais pas ça, je sais pas ce que je ferais, quoi.
Non, ça donne le sentiment que vous avez pas eu le choix que d'écrire.
Mais je considère vraiment que j'ai pas... Enfin, c'est étrange, oui, j'ai pas eu le choix. C'est quelque chose qui s'est vraiment imposé à un moment donné où je me suis dit, c'est ça et rien d'autre, quoi. Quand j'ai commencé à écrire, c'était pas parce que j'avais lu des livres qui m'avaient touché, pas parce que je me rêvais écrivaine. Ça a pas commencé comme ça.
Ça a commencé comment, alors ?
Un des premiers textes, c'était des lettres à une de mes petites cousines qui est morte à 4 ans, qui est tombée d'un toit en Algérie. C'est là que j'ai commencé à lui écrire des lettres. C'est une cousine que j'avais vue une fois dans ma vie, mais je comprenais pas voilà, comment un enfant pouvait perdre la vie aussi vite sans avoir rien vécu. Puis on m'en parlait pas forcément à moi, puisque j'étais adolescente.
C'était une façon d'apprivoiser la situation.
Ouais, c'est ça. Je pense que vraiment, il y avait un besoin de... Le fait de pas comprendre, ça rend très vulnérable et très seul. Et c'est ce que je pense que j'ai ressenti au départ, quoi. Et en écrivant, même si j'ai pas trouvé de solution ou d'explication, j'ai eu la sensation d'être actrice de quelque chose, quoi. En tout cas, d'être dans une démarche de compréhension et de ne pas rester dans cet état un peu de passivité et d'incompréhension. J'ai l'impression que ça protège de ça, quand même, l'écriture... Qu'on n'est pas obligé de tout le temps subir, quoi.
Les personnages de Fatima Das écrivent souvent des journaux intimes ou des fiches de renseignements. Dans Jouer le jeu, son deuxième livre, on entre dans le quotidien d'une lycéenne. Le jour de la rentrée, elle écrit « Je m'appelle Kaiden, Mes amis m'appellent Kay. Ce n'est pas un diminutif pour dire caïd, racaille, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour aller plus vite. C'est efficace, Kay. Kay a des amis, Samy, Jenna, Nelly. Des amis avec qui on partage des lectures, des blagues, des colères et des tuyaux pour la grammaire. Des amis qui lui disent « La langue de Molière, tu vas la tordre un jour. Tu vas d'être ça. »
Pour moi, c'était hyper important que dans ce groupe d'amis, il y ait beaucoup de tendresse et d'amour. C'est vraiment un roman sur comment l'amitié vient nous aider, vient nous sauver pour le coup, vient nous sauver de la violence pour le coup.
C'est facile de décrire la tendresse.
Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir, ça a été assez facile. Mais parce que j'étais un peu, je crois que je me suis un peu réconciliée avec tout ça, quoi, avec la tendresse, avec la vulnérabilité, montrer de la fragilité. Alors c'était facile. Ce qui était plus difficile, c'était de se remettre dans la peau d'un adolescent, de reparcourir des sentiments de honte de l'adolescence. Ça, c'était plus difficile, c'était un peu...
Quelle honte ?
C'est très con à dire, mais vraiment la honte d'être adolescent, quoi. La honte de ressentir des choses fortes, l'intensité de l'adolescence. Quand on essaye d'être juste là-dessus, moi, je trouve que c'est difficile. Je sais pas, là, je pense par exemple au Kaiden qui va avec son amie Jenna acheter un cadeau pour sa professeure et qui lui achète un collier Guess. Bah ça, c'est grave, là, tout. C'est vraiment... Ça, c'est... Même si je l'ai pas vécu, je suis gênée. Et en même temps, c'est trop mignon. Moi, je voyais un adolescent faire ça. Pas dans ce contexte-là, parce qu'en vrai, c'est une relation de pouvoir et c'est difficile. Mais en tout cas, je trouve ça mignon, aujourd'hui. Mais de se remettre dans la peau d'un adolescent qui fait ça, ouais, c'est la honte. T'as tout le temps honte quand t'es ado.
On va continuer un peu à parler de ce sentiment avec une chanson que je vais vous faire écouter. Parce que vous avez choisi un tube, mais je voulais aussi vous faire écouter une des chansons du roman, parce qu'il y en a beaucoup. Et cette chanson, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est le bon titre, mais enfin bon, c'est l'idée, quoi.
Bah ouais, la honte. À l'époque.
Nous sommes en 2010.
Je la connais par cœur.
C'est vrai?
Je vais pas chanter, hein. Mais je la connais par cœur. Je l'écoute en boucle. Comme Kylie.
C'est Justin Bieber. À l'époque, il a 16 ans et une mèche plaquée sur le front. Tu sais que tu m'aimes, dit-il, dans Baby.
Le clip et tout, je l'ai trop regardé. Ce qu'on cache aussi quand on est adolescent, on n'assume pas tout. Hein.
Mais pourquoi écouter Justin Bieber était un secret?
Ça, il y a plein d'adolescents qui le revendiquaient.
Ouais.
Mais moi, pour le coup, vraiment, ça c'est un truc vrai. Là, je mens pas. Je me rappelle au collège. Moi, j'avais kiffé direct. J'avais grave kiffé. Mais jamais j'ai sorti ça à mes potes, quoi. Jamais j'ai dit « Ah ouais, j'écoute Justin Bieber, t'écoutes ?» Pas du tout, parce que c'était... Même si on n'en parlait pas, c'était pas clair. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des insultes sur Justin Bieber ou « Ouais, il faut pas écouter ça », c'est jamais très strict comme ça. Mais si t'en parles, en fait, t'as peur de sortir du groupe, quoi. Il y a un truc de...
Alors pourquoi écouter Justin Bieber, c'était pas dans le groupe? C'est ça la question.
Parce que ce qu'on écoutait, c'était du rap, c'était pas hey, bébé, je t'aime, etc. Quoi. Il y a un truc réel là-dessus. Donc je pense qu'on écoutait tous à côté des trucs de Lover, ça c'est clair. Mais on faisait genre. Moi je traînais avec des mecs, et du coup, vraiment au collège pour le coup, surtout, j'allais pas leur sortir ça. On écoutait du rap, mes copains ils écrivaient des textes de rap, je les écoutais rapper, et c'est pas ce qu'ils racontaient quoi, dans leurs morceaux. Ils racontaient voilà, leur mère, leurs problèmes. Donc, venir parler de Justin Bieber et venir parler de Chérie, je t'aime, ça n'avait pas trop sa place, quoi. On ne montre pas nos sentiments, on ne montre pas, on essaye, voilà, on ne pleure pas, genre, et tout ça. Il y avait vraiment ce truc-là, c'était...
Mais ça, le plaisir coupable, c'est vraiment un truc de l'adolescence. Ça concerne la musique et ça concerne plein d'autres choses.
Oui.
De faire un câlin à maman, de ce genre de truc.
Après, moi, c'est vrai que ça, j'ai toujours kiffé. Hein. Par exemple, genre, à l'adolescence, je le faisais pas, mais parce qu'on n'était pas hyper tactile dans ma famille. Mais j'aurais trop aimé. Ça aurait été une fierté de pouvoir enlacer ma mère et tout. Mais c'est vrai que ces trucs-là, un peu cachés et tout, il faut de la maturité pour ça. Il faut être solide pour assumer ce que t'écoutes, ce que t'aimes, qui t'aime, tout ça. Il faut être solide. Enfin, solide, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, il faut du temps. Adolescent, t'es trop vulnérable. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il faut les protéger.
Faut être solide pour dire qui on est.
Ouais, je pense. Je pense qu'il faut du temps et il faut être sûr de savoir à peu près qui on est aussi. Et aussi, le groupe, quoi. C'est collectif, ce truc-là. Ça va pas... C'est pas tout seul, quoi.
Alors ça, c'est la chanson que, moi, je voulais vous faire écouter, qui fait partie de la bande-son du livre. Et on va maintenant écouter le tube que vous avez choisi, qui
de
est...
De salle, deux ambiances.
De salle, deux ambiances, ouais. C'est sûr. C'est un tube d'un groupe de rap de la fin des années 90. Donc le groupe s'appelle Sniper. Leur tube s'intitulait Gravé dans la roche, mais vous avez choisi un titre avant de leur premier album. Et c'est Pris pour cible.
Ça s'écoute à fond, ça s'écoute en voiture, ça. Toute mon enfance. Mais j'écoute encore ma vie. Donc vous connaissez le texte. Tout le texte, pareil. Je rappe mal, mais je connais par cœur. Après, je retiens bien les paroles. On me dit souvent ça. Mes sœurs, elles m'ont toujours dit ça. Ma copine, elle me dit tout le temps ça. De quoi au fond de toi, la jour à sommeil après ça. Tu deviens insociable, tout le temps, toute sans prix pour cible. Trop chaud ce titre, trop chaud. Oh, j'ai 6 ans quand ça sort, je crois que c'est 80... Ouais non,
c'est 2001.
2001, bah, j'ai 6 ans. Je me réveille avec ce son, hein. Souvent, parce que mes cousins ils écoutent ça à fond dans l'appartement.
Et vous compreniez tout ce qui se disait?
Je comprenais pas tout ce qui se disait, pas du tout comme je l'ai compris, par exemple à l'adolescence ou après. Mais il y avait un truc déjà, ça me donnait déjà un truc d'assurance, de force, de... Et le rap, c'est ça, pour moi, c'est OK. On va parler in situ, on va parler pour nous et par nous, quoi. Et ça va se passer comme ça. Ça a construit une relation solide avec le rap, je pense, d'avoir écouté si tôt.
Il y a pas mal de citations, soit de vers de rappeurs, soit de noms. Ça va de Damso à Fianso, j'allais dire, en passant par Marguerite Duras. Parce que jouer le jeu, C'est aussi ça, c'est ce mélange-là.
Tout à fait, comme déjà la petite dernière, hein, comme pour le premier roman, il y avait déjà cette volonté de mélanger les registres et les langages. Ouais, non, mais c'est tout bête, c'est que je pense que dans la vie, t'as à la fois, je sais pas, des moments où il y a les mots d'une autrice ou d'un auteur qui te viennent, et pour moi, je suis aussi traversée par des punchlines de rappeurs, quoi. Et ça me parlait à des endroits d'intimité, quoi. Et puis l'impression, voilà, de pareil, on en revient encore au truc d'être actif, quoi. Actif de son histoire, je sais pas si ça se dit.
Mais, acteur.
Ouais, acteur, voilà, acteur de son histoire, quoi. Vraiment, ce truc-là, quoi.
Là, nous sommes en 68, Charles Bellonzi est à la batterie. La chanson est coécrite avec Maurice Vander, Claude Nougaro.
Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, au DS de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher. Box, box, lui le vieux Kid Marin. Kid Marin, c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS de pierre pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, 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 il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre bombardent le plexus. Box, box, l'angle du maxillaire.
quatre boules de cuir dans la cage du ring. Son crochet, je l'encaisse, boxe. Il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est de champion. Boxe. Quatre boules de cuir et soudain deux qui roulent, répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, boxe. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve. Et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains. Kid Marin, vient me voir, ça ira mieux demain. Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche et j'aurai ton sourire. Boxe, comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes points, même si dans les coins, boxe, boxe, j'y vois encore luire. Quatre boules de cuir, quatre boules de cuir. Boxe, 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 boxe.
En 2020, Fatima Das publie son premier roman, La Petite Dernière. Chaque chapitre commence avec cette phrase. Je m'appelle Fatima. Chapitre 2. Je m'appelle Fatima Das. Je porte le nom d'une clichoise qui voyage de l'autre côté du périph pour poursuivre ses études. La Petite Dernière est le journal d'une Française d'origine algérienne, musulmane et lesbienne. Elle est née au mi-temps des années 90. Pour Totémique, Fatima Das a voulu entendre la voix d'un réalisateur et écrivain français, né en Algérie en 1952. Il s'appelle Mehdi Charef et il s'est fait connaître au début des années 80 en adaptant son premier roman pour le cinéma sous le titre « Le Théorème d'Archimède ».
Il m'avait invité au Palais de la Porte Dorée parce qu'il avait reçu un prix pour son livre « Rue des Pâquerettes ». Et j'étais hyper émue parce que c'est sa voix me hante encore, quoi. Les paroles qu'il a pu me dire ce jour-là, j'y pense souvent, quoi. C'est des paroles qui me restent.
On peut savoir ce qu'il vous a dit ou pas?
Je vais peut-être mentir, là.
Ok, séquence mensonge.
Non, en vrai, non, mais en gros, c'était vraiment de... En parlant de mon roman, quoi, il m'a dit qu'il l'avait trouvé très juste, que c'était une histoire importante, que j'étais une rebelle. C'était marrant parce que ça, il l'a dit devant le public. Il avait dit bah là, on est deux rebeux et une rebelle. Et du coup, depuis, quand on me pose la question de est-ce que vous vous sentez rebelle, bah, je suis obligée de dire oui parce que Mehdi Charef m'a appelé comme ça, quoi.
On va écouter la voix de Mehdi Charef en 2007. Dans l'interview qui vient, le journaliste lui dit: moi, ce que je remarque, c'est que tous vos personnages, dans vos romans ou vos films, ils observent. Et donc, il explique pourquoi.
Ils observent parce qu'ils sont sur le côté. Quand on est au milieu, on est intégré, on est bien, on n'observe rien du tout. C'est les autres qui vous regardent. Là, vous avez le bonheur que les autres vous regardent. C'est les autres qui sont... Ah là là, c'est... Puis ils vous regardent, ils vous admirent, vous êtes dedans. Non, mes personnages regardent toujours dans un silence assez étrange parce qu'ils sont toujours... Ils sont en marge de la page, ils sont pas dans la page. Ils sont pas là dans cette page où on l'en écrit. Donc j'ai toujours vu les autres avec du recul. Et le recul des gens, les gens vivent dans le recul, et ils observent ceux qui sont au milieu de la page, ils ont envie de rentrer dans la page. Dans les pages, il y a la marge, et puis il y a un trait rouge qui sépare. Pour passer ce fil rouge, là, c'est vachement dur. Hein. Ah ouais. Il n'est pas rouge pour rien. Il est très très dur à passer. Moi, j'ai... Moi, je l'ai passé peut-être avec le théorème, j'en sais rien. J'en sais rien. Et en même temps... Le passé, je culpabilise parce que je laisse tomber mes copains qui sont assez de l'autre côté. Et ça continue à me poursuivre même maintenant. Même maintenant, c'est très dur de passer ce fil rouge.
Très fort. Ouais, toujours les mots justes. Hein. Bah, ça me fait penser aussi à ce que j'écris. Hein. De la place qu'on occupe quand on est à la marge et qu'on écrit. Quand on est à la marge, même sans écrire d'ailleurs, parce que écrire un premier roman avec le portrait d'une jeune fille lesbienne et musulmane, c'est être à la marge. Moi, je considère que je pense que si j'écris, c'est parce que je suis à la marge. Je sais pas si j'aurais écrit si je l'étais pas. J'écris parce que je me sens seule. J'écris pas par plaisir, parce que je kiffe écrire. Oh, j'ai un peu de temps, je vais aller écrire, je vais me balader, j'ai le temps. J'écris pas pour ça, moi. J'aimerais bien parfois écrire pour ça, quoi. Mais en vérité, j'écris pas pour ça, quoi. J'écris parce que si je le fais pas, vraiment, je sais pas ce qui m'arriverait, quoi.
Et ça a vraisemblablement plein décochés d'autres.
Ouais, je suis heureuse. C'est hyper réparateur. Ça fait vraiment sortir, du coup, de la solitude. Et c'est peut-être pour cette raison, du coup, que je publie.
Est-ce que vous écrivez pour sortir de la marge?
Je sais pas ce que ça voudrait dire, sortir de la marge. Ça dépend ce qu'on entend par là. Moi, je cherche pas à sortir de la marge, parce que de toute façon, je suis à la marge et je cherche pas à être au centre. En tout cas, je cherche à ce que nos histoires aient une place. Et cette place-là, c'est pas parce qu'on nous la laisse, c'est parce qu'on vient la chercher. C'est vraiment parce qu'on écrit, parce qu'on... Et je dis « on » parce que je suis pas toute seule, hein. Je suis pas la seule à écrire et avoir ce truc très... d'urgence d'écrire.
Mais d'ailleurs, Mehdi Sharef, il pourrait être votre père, hein. C'est Il est de la génération de vos parents. C'est l'un de ceux qui a ouvert une voie, justement, par rapport à la visibilité de son parcours, comme celui de beaucoup d'autres, d'être né en Algérie, d'être arrivé à l'âge de 10 ans, d'avoir vécu dans le bidonville de Nanterre, de rendre visible cette histoire-là, finalement. Il a été pionnier dans ce domaine.
Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que ça n'a pas tant bougé que ça, quoi. Quand j'écoute des interviews, des archives d'interviews, par exemple, de Mehdi Sharef, et quand je vois la réception, par exemple, de La Petite Dernière, on n'est pas loin, hein. Enfin, on en est toujours à nous demander qui est-ce qui nous a fait, pourquoi on raconte pas que des voitures sont brûlées. Souvent, on nous demande, mais ça va, ça a bougé quand même, les droits des femmes et les questions d'immigration, etc. Ouais, mais on va pas dire merci, quoi. Et ce truc de devoir être reconnaissant, de dire merci parce qu'on existe et parce qu'on écrit, moi, j'avoue, ça me met en colère, quoi.
Beaucoup des scènes de Jouer le jeu, deuxième roman de Fatima Das, se déroulent au lycée. Kaïden y est bonne élève et elle doit choisir son orientation. Extrait. Monsieur Rocha avait lu à haute voix les quatre premiers choix. CAP petite enfance, il avait collé deux tables, installé deux chaises et rié tout ce qu'il y avait sur l'affiche. Il lui avait dit de penser à son avenir. Il lui avait parlé salaire. On va recommencer. CAP petite enfance, fin de carrière à 2000 euros. Qu'est-ce qu'on fait avec 2000 euros aujourd'hui ? Bah rien, avait répondu le professeur à sa propre question. Il fallait qu'elle demande une seconde générale, puisqu'elle en avait les capacités. Sinon, elle allait le regretter toute sa vie.
La promotion de La Petite Dernière, ça a été un déclencheur pour moi de jouer le jeu.
Donc la promotion du premier roman a déclenché l'écriture du deuxième.
Exactement. Je pense que vraiment la réception médiatique, c'était comme si voilà, je devais porter une sorte d'exemplarité étrange d'un parcours de petite fille de banlieue qui a réussi grâce à l'école et qui est hyper reconnaissante.
L'incarnation de la méritocratie républicaine.
Exactement, voilà. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Et c'est ça qui a fait que j'avais envie de raconter une histoire beaucoup plus complexe du lien à l'école des adolescents, de Kaïden, mais pas que, des autres personnages aussi, de ce que l'école produit sur des adolescents, quoi. Et moi, j'avais envie de parler, voilà, de, dans ce livre-là, de ce que c'est que d'être élu quand on est une jeune fille qu'on vient choper et à qui on va dire « Ok, pour toi, ce sera Sciences Po ». Et j'avais envie de poser la question de qu'est-ce qu'on essaye de faire de ces enfants-là, quoi. Qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on les pousse à rentrer dans une grande école sans jamais questionner ce que ça veut dire d'intégrer cette école, sans jamais questionner le désir de l'adolescent qu'on a face à nous, et sans jamais lui expliquer le réel, ce qui va se passer après, ce que ça veut dire d'intégrer cette école-là quand on vient des quartiers. Il y a une amie qui m'a dit récemment, qui a intégré Sciences Po, qui m'a dit, en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir ce que deviennent les personnes qui n'ont pas fait Sciences Po, qui ont fait le parcours en Ré+, et le programme Sciences Politiques se préparer à cette entrée, mais qui n'y sont pas entrées. Et je trouve ça hyper intéressant, et je pense que c'est exactement ce que j'ai envie de faire aussi avec Jouer le jeu. Pourquoi il y a des professeurs, en fait, qui choisissent des élèves, qui se disent, bah, ce sera pour toi, non, toi, ce sera pas pour toi, toi, c'est foutu. Ah oui, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a des enseignants qui sont là, dans les quartiers. Moi, c'est vrai que c'est une question que je me suis beaucoup posée quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. J'avais des enseignants qui voulaient pas être là, hein, qui clairement nous le disaient. Et du coup, ça fait grandir avec l'impression d'être... voilà, d'être des enfants sauvages, des enfants indésirables, que de ressentir la peur d'adulte, d'un enseignant qui est face à une classe d'adolescents, c'est très troublant de grandir avec ça, cette image-là, quoi. Se dire, ah, là, il y a un adulte face à nous, mais il a peur de nous. Et je pense que ça, par exemple, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parcouru, ce souvenir-là de l'adolescence. De à quel point les adultes avaient peur de nous. Et donc, on n'était pas des enfants, quoi. On leur faisait peur, quoi. Et donc voilà, il y en avait beaucoup et qui avaient pas envie d'être là, d'autres qui étaient là. Mais ceux qui étaient là, j'avais l'impression, et c'est ce que j'essaie de raconter dans Jouer le jeu, qui venaient pour nous sauver.
Et ça, vous trouvez que c'est pas estimable ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? Sauver de quoi ? Ça veut dire extraire d'un groupe ? Ça veut dire modeler ? Ça veut dire faire changer ? Ça veut dire... mais jusqu'où ça va, ce modèle-là, en fait ? Et je pense que, voilà, moi, j'avais envie de parler d'un système, quoi. Pas de mes personnages, j'ai pas envie de les attaquer. J'ai pas envie de les détester, mes personnages. Donc j'avais envie de parler d'un système qui broie les enseignants, qui broie les élèves. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on nous parle d'un idéal, voilà, liberté, égalité, fraternité, mais c'est pas du tout le cas. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que l'école puisse être... juste un espace de savoir, d'épanouissement, d'égalité et surtout un lieu où les enfants et les adolescents sont en sécurité, parce que c'est pas le cas. L'enseignante Garance Fontaine, bien sûr qu'elle a envie que ses élèves réussissent pour ceux qu'elle considère
sauvables,
exactement. Mais elle va s'immiscer dans ce qu'il y a de plus intime pour Kaiden, pour la faire réussir, entre guillemets, et encore. Qu'est-ce que ça veut dire, réussir ? Qu'est-ce que ça veut dire, réussir ? Moi, j'ai vraiment eu envie de travailler là-dessus, le décalage entre réussir sa vie et la réussite sociale.
Et finalement, le point de vue des ados, on l'a pas si souvent. Et d'ailleurs, il y a quelques pages dans le livre sur un cours sur la laïcité. Mm-hmm. Du point de vue des ados, où on sent la difficulté aussi, et pour les ados, et pour la prof, de comment on se rencontre là-dessus.
Tout à fait. L'enseignante d'histoire géo, d'entrée de jeu, elle n'a pas envie d'y aller. Elle n'a pas envie de faire ce cours-là, elle est fatiguée, elle ne comprend pas pourquoi son collègue il finit plus tôt, qu'elle elle finit tard. Voilà. Elle-même est dans un système qu'elle trouve injuste. Et quand elle se retrouve face à sa classe... Si tu vis de l'injustice de ton côté, et quand tu arrives devant une classe, ça vient toucher à des endroits, et il y a comme un truc de souffrance qu'elle fait aussi un peu subir à ses élèves, en fait. Et c'est ça que le système produit. Il n'y a rien qui est fait en sorte que pour que les élèves et les enseignants arrivent à communiquer. L'enseignante n'a pas envie de discuter avec les élèves, parce que ce système-là fait qu'elle a peur, elle ne se sent pas soutenue, qui n'a pas les armes, qui ne sait pas comment faire. Et on en revient à la peur. La peur voilà, d'être face à des enfants qui ne nous ressemblent pas, des enfants qui vivent la précarité, qui ont subi du racisme systémique à l'école, qui du coup voient aussi les enseignants comme, j'allais dire leur ennemi, c'est un peu fort, mais comme des personnes, des adultes qui ne sont pas capables de les comprendre. Et ça, les ados, c'est moi, en rencontrant des adolescents, c'est ça que j'ai ressenti aussi, c'est qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas parler, qu'en face, il y a quelqu'un qui a peur que ça dérape, qui a peur physiquement aussi, hein, qui a peur pour sa sécurité, et comment faire avec tout ça, quoi.
Elle s'appelle Doshi, elle est californienne et ce morceau s'intitule Wait.
On it. Life is just like a bike, it don't move unless you better than less about who is better and more about who blessing them. Softer than gelatin, peanuts than elephants. You dumb as a box of rocks if you think it's irrelevant. My granny been popping Zanny since CBS met the nanny. My mammy Danny, she tripper than Annie. And I'm not talking to family, but I've been dreaming of fishing since I've been watching the Grammys. And I'm here to stay like the shit in your panties. I need some standing ovation since y'all can't seem to understand me. I might look fly in the matrix, I hope I'm sticking my landing. No need to bring fall back. Green light, niggas calling my phone, bitches calling my phone, private calling my phone, blocking you off my phone, bill collectors, roach and bug inspectors calling my phone, who you checking if I'm disrespecting you with my tone?
Fatima Das, écrivaine, est dans Totemix ce matin. Son deuxième roman s'intitule Jouer le jeu. On y suit le quotidien de Kaiden et de sa bande de potes au lycée. Dans le texte, Fatima Das glisse des extraits de rap ou de romans qui comptent pour l'ado qu'elle met en scène. Parmi ses romans, il y a Délivrance, de l'autrice américaine Toni Morrison. En 2012, Toni Morrison était interviewée par Laure Adler sur France Culture.
Est-ce que vous acceptez ce terme de partition pour qualifier votre œuvre ?
Je suis tout à fait d'accord.
Ils ont un son tout à fait particulier pour moi. Le rythme, les pauses, les silences, tous ces éléments sont d'une certaine façon naturels pour moi. Vous savez, j'utilise un anglais parlé. Un anglais qui est presque proche du dialecte, de l'argot.
Comment vous construisez votre langue ? Car vous avez une langue à vous.
C'est un effort extrêmement fort. Comment vous dire ? C'est comme un sermon. Où l'emphase est portée, par exemple, sur certains points. Vous savez, dans les églises afro-américaines, toute la communauté est réunie et il y a le ministre du culte qui est là. Et c'est la même chose, il y a le lecteur et moi-même, et nous rentrons dans un duo. Et donc, le son et l'emphase que l'on porte sur certains des éléments est tout aussi importante que les mots qui sont choisis.
C'est exactement ce qui me touche dans l'écriture de Toni Morrison. Les silences et sa manière de parler de son écriture. Les silences dans le texte. Écrire comme on parle, on a l'impression que c'est quelque chose de simple à faire. C'est extrêmement difficile. C'est facile d'écrire comme on parle si on l'écrit comme ça, quoi. Mais quand on veut le faire correctement, sans que ça devienne
C'est pas là, par exemple, pour jouer le jeu. J'avais pas envie qu'on lise un livre de quelqu'un qui essaie de parler comme les jeunes, quoi. Et ça, c'est plus difficile à faire. Ça veut dire accepter de vraiment se mettre dans un corps d'adolescent et de retrouver cette voix-là, quoi. De retrouver ce langage-là, de retrouver cette manière de poser les mots. Et, ça, et le, les silences, ça fait partie de ça aussi. Moi, il y a beaucoup de dialogues dans Jouer le jeu. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire les dialogues. C'est très difficile d'écrire des dialogues. Parce qu'on sait jamais bien si on a le bon ton, la bonne voix, quoi. Puis quand on a une discussion entre plusieurs personnages, il faut pas que ça se ressemble. Il faut pas qu'ils parlent pareil. Il faut pas qu'ils se tiennent de la même manière. Il faut pas qu'ils aient... voilà, il faut que ça change. Et du coup, se mettre dans la peau de plusieurs personnages, essayer de trouver les intentions de chacun, de chacune.
Cette technicité-là, c'est un truc qui vous intéresse ?
Moi, j'adore les moments où j'y arrive pas. Enfin, j'adore, je kiffe pas ne pas réussir, mais j'adore le moment où je sens que ça va me demander du temps, par exemple, que je vais devoir passer par plusieurs étapes avant de trouver la bonne phrase, avant que ça forme un tout, avant que la lectrice, le lecteur voit vraiment mes personnages, les entende réellement, et surtout la place...
Qu'on sente justement une attitude rien que dans une phrase. Même si la phrase décrit pas l'attitude, qu'on sente dans ce qu'il ou elle raconte que c'est comme ça qu'il se tient.
C'est exactement ça, c'est mon rêve. J'ai envie que la lectrice, le lecteur... voit directement, que j'arrive à lui faire ressentir sans aller chercher l'émotion, quoi. J'ai pas envie de dire à ma lectrice ou à mon lecteur, il faut que tu penses ça, il faut que tu ressentes ça. J'ai envie de laisser de la place, quoi. Laisser la place et ne pas prendre les lectrices et les lecteurs pour des cons, quoi. Je sais qu'ils sont capables de se dire, de faire la différence entre, je sais pas, une histoire d'amour impossible et une relation de pouvoir entre un adulte et un enfant. J'ai pas envie d'avoir à le dire, quoi. J'ai envie qu'on le ressente. Qu'on se dise, ah non, là, la professeure a dépassé les limites. Là, elle n'avait pas à lui écrire. Là, elle n'avait pas à la raccompagner chez elle. Je le suggère et j'ai envie qu'on se fasse... Après, j'ai aussi envie qu'on sache ce que j'ai écrit, quoi. J'ai aussi envie qu'on comprenne ça. Mais j'ai pas envie, pendant l'écriture, de forcer cette interprétation-là, quoi.
Dans Jouer le jeu, Kaïden est une lycéenne qui vit avec sa sœur Shadi et sa mère Aïcha. Une mère qui s'inquiète de voir sa fille passer un temps fou à se lisser les cheveux et qui s'inquiète aussi de voir sa fille arriver en retard au lycée. Une mère qui trime et qui se détend devant la télé à l'heure de Taxi Majnoun. Taxi Majnoun est écrit en italique dans le texte de Fatima Das. Et je ne sais pas ce que c'est, je cherche et apprends qu'en Algérie, Taxi Majnoun est une émission de caméra cachée avec une star qui s'appelait Ahmed Hamdan. Le générique de Taxi Majnoun, c'est ça.
Bien sûr. Ça, c'est toute mon enfance. Hein. Ils sont trop forts, les Algériens. C'est pas possible. C'est tellement drôle. J'ai eu des fous rires. En fait, c'est une émission qui tourne surtout pendant le Ramadan. Et on regardait ça en famille. Et c'est hyper drôle. C'est hyper drôle. Ça s'appelle, en gros, la traduction. Là, je vais traduire. Mais le taxi possédé. C'était important pour moi, les références avec lesquelles on a grandi, quoi. Autant ça que, voilà, que la musique. Et je pense, voilà, plein de gens qui connaissent cette émission. En lisant ça, il y a un clin d'œil, quoi. On partage les mêmes rêves, comme ils disent... les jeunes aujourd'hui. Je suis encore jeune, mais...
Vous avez quel âge ?
J'ai 29 ans.
Et comment les mots arabes arrivent dans le texte ?
Ils arrivent par besoin de retranscrire le réel, de mettre les mots comme ils se disent, comme ils se parlent à la maison, comme ils se parlent dans une famille. Enfin, moi, quand je parle, il y a des mots arabes. Hein. Donc, de la même manière, quand je parle de cette famille, que je construis cette famille, Aïcha, la mère, il y a des mots qu'elle dit en arabe, d'autres qu'elle dit en français, Shadi, pareil. Et ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas traduire, je pense. C'est des mots qu'il faut mettre comme ça, et parce que je pense qu'on comprend, voilà, le sens global. Mais je trouve que c'est important que ça retranscrive le réel, quoi.
Zao Tsagazan, est-ce que tu vas bien? C'est le titre de ce nouveau morceau.
Je ne sais plus qui j'aime, si c'est toi ou ton souvenir. J'ai tendance à ne retenir que le bon côté des choses. Dis-moi, elles étaient belles ces choses-là. Suis-je la seule à penser à ça? Est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je ne sais plus si même tu mérites encore mes mots. Je crois que les tiens n'étaient pas ce qu'on nommerait de beau. Et si les tiens n'étaient plus, si tu ne parlais plus de moi, est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore.
D'abord ou France Inter? On s'en fout.
Non, que tu veux.
Fatima Das, Rebecca Manzoni, France Inter, Totémique.
Fatima Das publie son premier roman, La Petite Dernière, quotidien d'une jeune fille lesbienne et musulmane. 2025, le 22 octobre précisément, La Petite Dernière, adaptée par Afsia Herzi, sortira en salle. Et voici la bande-annonce.
Salam tout le monde.
Salam ma fille.
Ça va, Yama?
Ça va.
Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien.
Je vais faire comment plus tard avec ton mari?
On sera pas là. Hein. Quel mari qui va vouloir l'épouser? Oh, elle a zéro féminité, regarde.
Comme ça. Lui alors?
Comment t'as su que tu préférais les femmes?
Je suis tombée amoureuse, en fait, d'une de mes copines au lycée. Banal. Toi, tu sais pas encore.
En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane.
Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes.
L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes. Et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes.
La pédale, votre copine la lesbienne là. Elle fait comme un garçon.
Oh, j'adore, t'es tout timide.
C'est quoi un cœur brisé, c'est quoi?
Moi je te le recoupe ton cœur, moi. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment faut vivre. Hein.
En mai dernier, La Petite Dernière était en sélection officielle au Festival de Cannes. Nadia Meliti, qui joue Fatima, y a reçu le prix d'interprétation féminine.
Franchement, c'était une expérience bouleversante. Surtout le moment de la projection, en fait. Regarder ce film-là avec plein de gens comme ça, ressentir l'émotion de tout le monde. Enfin, j'ai l'impression que j'absorbais plein d'émotions différentes. Le vivre avec l'équipe, avec Afsia, avec Nadia, avec toutes les comédiennes du film. Je trouvais ça hyper fort, la manière qu'elle a eu de combler les silences, de combler certains trous, de réinterpréter certaines scènes. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir quand on a écrit un livre. Et puis c'est mon premier. Mais il est bien adapté, quoi. Il est juste, il est...
Elle a compris.
Voilà, ça fait vraiment cet effet-là. Elle a bien lu, quoi.
Le regard d'Afsia Herzi sur le roman, est-ce que ça a changé votre regard à vous sur votre livre?
Carrément. Et il y a plein de choses, je pense, dans mon premier roman que je l'écris avec une urgence d'écrire. sans penser aux interprétations des gens sur ce livre. Évidemment, je savais le contexte, voilà, l'islamophobie ambiante et tout, mais j'ai pas... J'y suis allée, quoi. Il y a un truc de... C'est facile de récupérer des scènes de violence, par exemple, de la petite dernière. Ou... Il y a des trucs, par exemple, le père, le personnage du père dans le film, le fait qu'il soit pas violent à l'écran, alors que moi, je l'ai écrit comme un homme violent... Le fait de voir un père juste là, présent mais absent, qui est juste en train de regarder la télé, mais qui n'est pas violent, ben c'est, je trouvais ça trop juste, en fait, de pas le retranscrire, de pas retranscrire la violence du père à l'écran, quoi. Parce que ça aurait été encore autre chose, de montrer un homme maghrébin violent à l'écran, quoi. Et je trouve que le film, justement, il va plus loin, il évite certaines choses, et...
Et donc, ce personnage de Fatima, lesbienne et musulmane, qui a existé dans La Petite Dernière, il va exister maintenant sur grand écran.
C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. J'ai très hâte que ça existe. C'est vraiment la représentation qui nous manquait. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais ça touche à un point où, waouh, moi j'aurais kiffé voir ça ado, quoi. Je savais même pas que ça existait, quoi. Je croyais que j'étais la seule au monde, donc il y a un truc de... Waouh, ça va... C'est trop important. Il faut le prendre comme ça, il faut le prendre comme un film sur des questions de classe, de race et d'homosexualité et le croisement avec l'islam, quoi. C'est vraiment ça qui est important de voir dans ce film.
Et en même temps, être visible, ça peut être difficile aussi.
Parfois, on a envie d'être invisible, hein, de retourner dans sa crotte, hein. Oui, visible, ça vient avec de la violence, quoi. Le fait tout d'un coup d'être vu, d'être entendu, d'avoir une parole. Et quand on est à la marge, c'est pas un pouvoir. Évidemment, il y a un truc d'espace de pouvoir parler, mais moi, j'ai souvent dit que quand on m'invite, j'ai pas l'impression qu'on m'invite pour parler. J'ai l'impression qu'on m'invite pour que ma parole, finalement, soit récupérée, quoi. C'est pas parce qu'on est intéressé par ce que j'écris, parce que j'ai fait, parce que ça peut vouloir dire et ce que ça nous a fait ressentir. J'ai l'impression qu'on m'invite pour que je tienne des discours sur ce que c'est que la vie d'une femme lesbienne musulmane, quoi. Et qu'on veut me faire représenter toutes les lesbiennes musulmanes de France, comme si on n'avait pas le droit à notre individualité. Moi, je me concentre aussi sur ce que ça a fait aux gens et sur ce qu'on a pu me dire et les lettres que j'ai pu recevoir des lectrices, des lecteurs sur ces questions-là. Et j'avoue que c'est pour ça que je continue à écrire, en tout cas de publier. C'est pour ça que je continue à publier. C'est parce que je vois que ça rencontre un public, que ça touche, que ça parle, que ça connecte, quoi. Sinon, pas trop de raison de publier, quoi.
Il y a une séquence dans cette émission.
Oui.
C'est une séance photo.
Allez, c'est parti.
On le fait où? Dans le canapé?
Allez. Je sais même pas si je souris pas.
Bah, on va voir. Allez-y, prenez-la.
Sublime blanche, hein.
Pardon?
J'ai dit sublime blanche. C'est une blague, mais... On aura de mal.
Et voilà qui apparaît Fatima Das dans son canapé.
Nickel, très bien.
Ça va ou pas?
Bah oui. Ça se voit que j'ai beaucoup parlé là, j'ai la tête de la personne qui a beaucoup parlé.
C'est-à-dire?
Je sais pas. Je vois là, je suis en mode. Ah, j'ai parlé quoi, ça y est.
Pas de regret?
Non, c'était un plaisir. C'était un plaisir de discuter avec vous. Toi, vous.
On passe à votre carte blanche?
Allez.
C'est dans le téléphone?
Ouais, toujours.
Ah oui?
Toujours non, c'est pas vrai, mais là, je l'ai fait. C'est bon, c'est ça, c'est la bonne version. Palestine, Gaza, en ruine, bombardement, incessant, destruction, massive, famine, de masse, mort, vainqueur, martyr, enfant, pas que, femme, pas que, journaliste, artiste, pas que, homme aussi, les hommes, des pères, des frères, des fils, humains, eux aussi. immeuble rasé, chez soi ravagé, droit bafoué, arme vendue, état complice, posture imposture, état colonial, regard hanté, famille brisée, vengeance terrible. La censure, les poursuites, les mots font peur, nommer un devoir, le strict minimum, rompre le silence, parole muselée, pervertie, déformée, condamnée. Par qui? Pourquoi? Occupation, colonisation, génocide, la honte. Images, vidéos, en direct de l'enfer. Mais là-bas, c'est pire que les images qu'on voit défiler sous nos yeux impuissants. Le pouvoir s'en fout, partir, s'enfuir pour aller où? Effacer un peuple et son histoire. Leur vie, leur corps, leur dignité, leur humanité, leur récit, il faut le rappeler, il faut le crier. Je pense à Ahmed aujourd'hui, sa famille, sa mère, ses frères, ses sœurs. La honte, la honte.
Jouer le jeu, de Fatima Das, est publié aux éditions de L'Olivier. Son premier roman, La Petite Dernière, est devenu un film réalisé par Afsia Herzi. Il sera en salle le 22 octobre. Stéphane Le Guenec réalise Totémic et c'était avec Achille Aknin ce matin. L'équipe de Totémic, c'est aussi Perrine Malinge qui programme nos invités, Ilinka Negulesco qui trouve son et documentation et JB Audibert qui choisit nos disques. La semaine prochaine, rendez-vous au café avec Marina Foïs. C'est Totémic.